Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Je vais tenter de retrouver ma voix jusqu'à la fin de cet édito. Vous le savez, c'est le dernier épisode du mois et c'est donc jour de saga. La saga de cette saison 2024-2025 est consacrée évidemment à l'immense David Bowie, vous le savez si vous nous suivez depuis maintenant plus de deux mois. Lors de l'épisode précédent, nous vous avons narré les premiers albums de Bowie, sa rencontre fondamentale avec Tony Visconti, ainsi que celle d'Angela Barnett, qui deviendra sa femme. On l'avait enfin accompagné dans son odyssée spatiale. Dans l'épisode de ce jour, on va retrouver un Bowie plus esselé, mais pugnace et toujours aussi créatif. Et je vous propose qu'on ouvre l'émission et qu'on plonge directement dans le bain en s'écoutant The Man Who Sold the World. Sold the World, donc. Mais oui, bravo. Dans sa version donc reprise par Nirvana lors du magnifique Unplugged in New York. Très bel album de Nirvana dont on avait parlé
l'année dernière,
exactement. Et donc, il y a une chanson initialement de David Bowie. Donc, vous l'avez compris, vous êtes bien sur Radio Présence, vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la saga Bowie. Et ce dernier va faire une autre rencontre que celle dont on vous avait parlé.
De Tony Visconti.
Voilà. Et de Barnett. Une autre rencontre plutôt prometteuse. Tu nous racontes, Gauthier.
Et c'est un dénommé Michael Ronson que David Bowie va rencontrer à l'époque. C'est un gars rapidement incliné à Kingston upon Hull. Mm-hmm. En 1946, c'est d'abord un violoncelliste, puis il va se tourner vers la guitare après avoir découvert la musique d'un dénommé Duane Eddy, dont pas forcément passé à la postérité. Quelques groupes pour se faire la main, et puis il va devenir jardinier. C'est en tout cas dans ce contexte-là qu'un des futurs Spiders from Mars vient le chercher pour intégrer le groupe donc, du dénommé Bowie, groupe qui s'appelle à l'époque les Hype. En 2 minutes, Ronson est adopté, il fait 2 essais, et le voilà déjà catapulté sur le plateau de la BBC pour une Peel Session le 5 février 1970. C'est le premier passage de Ronson aux côtés de David Bowie. On le précise lui plus que les autres. Pourquoi ? Parce que Ronson aura une influence majeure sur la musique de David Bowie, sur ses solos. On en reparlera quand on parlera de Ziggy Stardust notamment.
Juste Gauthier, est-ce que c'est le même Ronson dont on parlait la semaine dernière sur Lou Reed ?
C'est le même Ronson, voilà. Mick Ronson, qu'il ne faut pas confondre avec Mark Ronson.
D'accord.
Le producteur de musique populaire, on va dire actuelle.
Donc Michael, surnommé Mick Ronson, ok. Bowie, on le rappelle, était à la colle avec une dénommée Angela Barnett et lui avait même dédié un morceau, si mes souvenirs sont bons, Gauthier. Ils en sont où en 70 ?
Eh bien, ils se marient.
Eh bien, bravo.
Et oui, ce bon David Bowie a été marié, c'est pas la chose que l'on sait le plus de sa biographie. Et il sort à l'époque, en plus de son mariage, un single qui va sortir dans l'indifférence la plus totale. Ce single, c'est The Prettiest Stars, que vous allez entendre dans sa version originale de 1970 et non dans sa version.
Pas reprise par Nirvana.
Alors non, j'arrête mes facéties, mais pas dans sa version plus connue qui sortira sur Aladdin Sane, un album dont on parlera dans quelques semaines. Everything but cold fire. You will be my rest. La Prettiest Stars est donc bien évidemment la dénommée Angela Barnett, mon cher Théo. Un single qui sortira dans l'indifférence la plus totale, je te disais, puisque les chiffres parleraient de 800 exemplaires vendus, ce qui n'est quand même pas ouf, Théo.
C'est pas dingue.
C'est pas 800 exemplaires dans le village de David, c'est dans le monde.
Et Bowie, donc, s'il se marie civilement avec Angela Barnett, il va hélas divorcer professionnellement.
Oui, c'est une période compliquée pour David Bowie. Alors d'abord, Ken Pitt, son manager initial, celui qui l'a lancé dans le grand monde, va être remplacé par un dénommé Tony Dumfries. David Bowie reprochant à Ken Pitt de ne pas avoir fait de lui une grande star. Pas très sympa pour Ken, sachant que les albums de David Bowie à l'époque n'étaient pas forcément extrêmement bons.
Mais toutes ces péripéties ne vont pas empêcher David Bowie de continuer sur sa lancée et donc d'entrer en studio pour un 3e album. Comment ça se passe ?
Eh ben, c'est le fameux The Man Who Sold the World, dont on entendait la reprise par Nirvana tout à l'heure, en début d'émission. C'est un album qui est inspiré par un rock beaucoup plus lourd que les premiers albums, et notamment la délicieuse Space Oddity, plus gras, parce que oui, David Bowie n'arrive pas à vendre des albums, mais ça l'empêche pas de continuer d'expérimenter des trucs, le mec est vraiment là pour ça. Tony Visconti, dont on avait parlé lors de la précédente émission, reprochera à David Bowie de ne pas du tout s'investir dans son travail à cette époque-là, au point qu'il annonce carrément à David Bowie, qui se barre déjà un autre divorce, pour le groupe T-Rex, un choix bien plus prometteur, selon en tout cas Visconti à l'époque.
Aïe aïe aïe, voilà qui a dû chagriner ce pauvre Bowie et peut-être même lui ouvrir un petit peu les yeux sur la réalité de la musique professionnelle. Il a fait le bon choix, au fait, Visconti ?
Alors, Visconti, il a fait un bon choix, au moins au début. Ouais. En fait, T-Rex, c'était le groupe de Mark Bolan, et à l'époque, de fait, c'était un poulain bien plus
prometteur
que David Bowie. Ouais. Et la preuve, la suite donnera raison, au moins, je le disais au début, pour Tony Visconti, parce que, de fait, David Bowie est plus rentré dans l'histoire.
Au niveau de la postérité, on connaît plus Bowie que les T-Rex.
Oui, mais à l'époque, T-Rex est plus connu que David Bowie, et entre 70 et 73, T-Rex va placer 10 singles dans le top 5 anglais, un chiffre qui ferait rêver David Bowie à l'époque. Mmh. Et un 33 tours même qui sera meilleure vente en Angleterre. C'est le somptueux Electric Warrior qui est le deuxième album, je crois, du groupe sous l'entité T-Rex. Parce qu'avant de s'appeler T-Rex, ça s'appelait Tyrannosaurus Rex, mais qui est vachement moins bien que T-Rex.
Non, c'est plus facile à prononcer.
On en avait parlé juste, Théo, très rapidement. T-Rex, on considère que c'est quasiment les inventeurs du glam rock avant David Bowie.
Voilà. D'accord. Comme généralement les ennuis volent en escadrille, David Bowie va voir son entourage se réduire à, comme peau de chagrin, Gauthier.
Ouais, alors après Ken Pitt, bon, qui l'a foutu à la porte, donc tant pis pour lui. Tony Visconti qui claque la porte, lui, parce qu'il trouve que David n'en fout pas une rame. Mm-hmm. Je caricature, bien évidemment, mais c'est pas loin. C'est Mick Ronson qu'on vient de faire entrer dans notre histoire et qu'on fait déjà ressortir. Et le dénommé Woody Woodmansey, qui était un autre musicien des Hype, quitte l'environnement, on va dire, ou l'entourage de
Pourquoi
David.
Pourquoi?
Ben, il trouve que notamment le rythme des concerts est pas très satisfaisant, ou tout du moins que les recettes en billetterie sont pas géniales. Comprenez qu'en fait ils sont fauchés comme les blés et qu'il faut qu'ils arrivent à manger. En gros, l'ambiance à l'époque est pas top.
Je sais que tu aurais beaucoup à dire sur cet album, mais tu préfères te focaliser sur l'homme et sur les anecdotes qui
c'est
permettent.
C'est l'objet de la saga, Théo.
Et voilà, c'est des anecdotes qui permettent de le définir au mieux. Vas-y, livre-nous quelques anecdotes.
Mais qui est David Bowie à l'époque de The Man Who Sold the World? C'est un gars qui n'est pas même écouté par son propre label, le label Mercury, qui quittera d'ailleurs au demeurant. À titre indicatif, par exemple, la première idée pour David Bowie, pour cet album de The Man Who Sold the World, le titre c'était Metropolist, un hommage notamment au Metropolis de Fritz Lang, je crois,
oui, c'est ça.
Sauf erreur de ma part. Mercury trouve que c'est pas top, donc ils vont enlever le nom et le remplacer par le nom de la chanson qu'ils trouvent le plus bankable sur l'album, la chanson The Man Who Sold the World, bien évidemment. Exit aussi aux États-Unis la pochette que David Bowie avait prévu de mettre. C'est la pochette que tout le monde connaît, c'est David Bowie lassivement allongé en robe sur un divan. Le label le trouve un peu trop ambivalent pour l'époque. Et donc, ça aussi, on change. Donc, David Bowie, à l'époque, c'était un musicien dont on ne respecte ni le titre des albums, ni les pochettes d'albums. Pas ouf.
Non, ça ne donne pas envie de continuer l'aventure. Étant donné le contexte ambiant autour de lui, qu'on dirait vraiment pour le coup frappé par un mauvais sort, ce pauvre Bowie, et j'imagine que l'album est un four.
L'album ne va pas très bien fonctionner. Faut dire que c'est quasiment peut-être le dernier mauvais album du début de David Bowie, quoique que certains diront que c'est le premier bon album de David Bowie. Chacun fera son idée.
Album de transition, on va dire. Alors.
Un album de transition. De toute façon, David Bowie, c'est une transition permanente. Donc, donc c'est un peu compliqué à suivre.
C'est vrai.
Et en fait, aucun single ne sortira de cet album. Et la chanson The Man Who Sold the World, que tout le monde connaît maintenant, en fait, a été popularisée par Nirvana. C'est pour ça que je vous ai mis la version de Nirvana. Que Nirvana n'a joué d'ailleurs que sur un unplug. Parce qu'elle aurait assez mal figuré sur In Utero, je pense. Ou sur Nevermind. Mais voilà. C'est un David Bowie, quand même, qui commence à se structurer. Malgré tout, The Man Who Sold the World, c'est un album qui en demeure quand même intéressant à ce titre-là. Et en fait, c'est la dernière petite pierre avant le début des chefs-d'œuvre, Théo. Ces chefs-d'œuvre, tu les connais, ils arrivent, et c'est notamment la chanson « Changes ». And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. But never leave the stream of warm and permanent sense.
So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her neck?
Et donc Gauthier, comme le morceau qu'on est en train de s'écouter en fond, la Changes, le laisse subodorer, on va s'attaquer à la période Hunky Dory. Et pour faire son premier véritable grand disque, il va falloir s'entourer et on va retrouver une ancienne connaissance.
Oui, parce qu'en fait, David Bowie se dit, la première personne que je vais rappeler, c'est Mike Ronson qui venait de quitter le navire. Tu me diras, quand tu veux faire du rock, un guitariste, ça reste utile.
Oui, c'est pas idiot donc, d'avoir un guitariste.
Donc on rappelle Mike Ronson.
Et Visconti, alors le producteur original, il revient lui aussi?
Alors non, David Bowie va essayer de le rappeler, mais lui ne revient pas, il est trop occupé avec ses T-Rex qui dépotent à l'époque. Et donc on va appeler un autre gars pour le remplacer, un dénommé Ken Scott. Alors malheureusement, souvent les producteurs on les connaît pas forcément. Ce petit gars, il a bossé avec les Beatles à titre indicatif, avec les Pretty Things aussi, avec Elton John, j'en passe et des meilleurs. Autant dire que c'est un gars qui pèse dans le milieu et qui sera fondamental pour David Bowie, parce que c'est notamment lui qui va apporter cette petite touche éminemment british, éminemment légère qu'on entend sur Hunky Dory. Vous aurez constaté que même si la première chanson était jouée par Nirvana, il y a quand même une différence de composition entre le Changes d'Hunky Dory et The Man Who Sold the World.
Un peu plus enjoué peut-être.
Un peu plus légère. Ce qui joue beaucoup aussi pour Hunky Dory, c'est que David Bowie va composer cet album pour la première fois au piano. Voilà, et ça virevolte un tout petit peu plus.
Et du coup, j'imagine qu'après le four de The Man Who Sold the World, il pouvait que rebondir. Ce pauvre Bowie.
Écoute, oui, et l'apparition d'Hunky Dory dans les charts, on va dire, va s'accompagner pour lui d'un regain un peu de succès. Il l'avait connu un peu avec, Space Oddity, puisque une chanson qu'il vient d'écrire à l'époque et qu'il a donnée à un chanteur dénommé Peter Noon va lui ouvrir la porte des charts quasiment presque pour la première fois, ou à nouveau après Space Oddity. Cette chanson, elle est connue aussi, elle figurera sur les albums de David Bowie, c'est la chanson Oh You Pretty Things.
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me.
Une chanson, là encore, Théo, composée au piano, tu l'auras noté.
Ah oui, je reconnais pas de clarinette, en effet, là. Et Bowie, donc, reprend un petit peu du poil de la bête, et il va même, donc, il va partir, il va quitter Mercury, son label.
Oui, pour signer chez RCA, un label qui à l'époque essaie désespérément de moderniser son image. À titre indicatif, RCA, je crois que c'était le label d'Elvis Presley.
Ok.
Lou Reed va changer de label, va rencontrer aussi du monde. Il va aller à New York, il va rencontrer Lou Reed, dont il a un amour immodéré pour le Velvet Underground. Il va rencontrer Iggy Pop, on y reviendra, dont l'importance est là aussi capitale dans sa carrière. À titre indicatif, le prochain personnage de David Bowie, c'est Ziggy. Ziggy, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Il rencontrera aussi Andy Warhol à New York, à qui il présentera la chanson qu'il vient de composer en son honneur pour Hunky Dory, la chanson Andy Warhol. La légende dit que non seulement Andy Warhol a détesté la chanson, mais qu'en plus il n'a pas décroché la mâchoire de tout le rendez-vous. Un truc sympa. Ouais. Hunky Dory, je passe très rapidement Théo, mais c'est plein d'hommages. C'est un hommage à Bob Dylan aussi, avec Song for Bob Dylan bien évidemment. Queen Beach est un hommage à Lou Reed. Life from Mars reprend le My Way de Frank Sinatra, etc. etc. C'est beaucoup d'hommages.
Ouais. Je repense à Andy Warhol, c'est vrai que ça ne devra pas lui laisser un souvenir impérissable quand même. C'était important pour lui, mais...
Pas pour l'autre.
C'est affreux, quoi. Il se trouve... Alors, David Bowie va trouver de l'inspiration plus près de lui, voire même très très près.
Oui, petite anecdote aussi matrimoniale. Après son mariage, David Bowie va avoir le plaisir d'être papa, puisque à l'époque de Hunky Dory va naître son fils Duncan, à qui on doit notamment 2-3 bons films et Warcraft. tout le monde n'est pas parfait. Quoique c'est un blockbuster pas mauvais.
Sérieux?
Ouais, l'adaptation de Warcraft a été faite par...
Duncan Bowie.
Ouais.
Ok.
Et il devait y en avoir toute une série, mais ça s'est arrêté dès le premier.
Hélas.
Et pourtant, c'est pas un mauvais blockbuster.
Je ne l'ai pas vu.
Bon, la chanson qui inspirera Duncan à son père, c'est la chanson Cooks que vous entendrez aussi sur Hunky Dory, mm-hmm. Une chanson magnifique.
Et donc, comme je disais tout à l'heure, Gauthier, j'imagine que le succès de Hunky Dory, s'il n'est pas colossal au début, il va quand même le sortir du bourbier du précédent album.
Alors, ça sort le 17 décembre 71, donc chez RCA. Il s'est pas très 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 bien vendu, puisqu'à l'époque on parle de 5000 exemplaires vendus au premier.
Ce qui est mieux que 800.
Oui, mais surtout la célébrité de Hunky Dory viendra par la suite, même très rapidement après, quelques mois après on va dire.
D'accord. De toute façon, peu importe, la métamorphose de Bowie, tant musicale que physique, se poursuit.
Oui, parce que bon, notre cher Trublion ne tient pas en route. Pour ceux qui se disent que ça passe assez vite, qu'on en est déjà au quatrième album, oui, il y a un album par an, donc forcément ça dépote.
Et oui.
À peine David Bowie a fini de composer Hunky Dory, il a déjà en fait, en composant Hunky Dory, toute la production quasiment pour son prochain album, et la métamorphose effectivement se produit. Adieu le look un peu androgyne sur lequel il jouait pour se faire connaître de Man Who Sold the World ou Hunky Dory, où il y a cette pochette où il pose presque comme un danseur d'opéra aussi un peu androgyne. Lorsqu'on va le revoir arriver juste après la sortie d'Hunky Dory, il a déjà les cheveux qui s'allongent dans la nuque, qui se raccourcissent sur les côtés, qui vont pas tarder à devenir rouges, vifs. David Bowie est en train de mourir pour laisser temporairement la place à un dénommé Ziggy. La prochaine saga, Théo parlera d'un album monumental.
Il me tarde.
Si tant est que Hunky Dory n'en soit pas déjà un monumental.
Ouais. Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en retournant dans l'espace en compagnie de David Bowie qui s'interroge sur l'existence de la vie martienne.
On y restera la prochaine saga sur Mars au demeurant.
Ah mais oui,
Mais oui, c'est bien foutu tout ça. dans le choix des chansons, tu vois, non, mais c'est bien.
Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour la prescription. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
Salut. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dark. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again.